Bonjour, un centre de vaccination détruit en Martinique, échauffouré à Fort-de-France entre opposants au confinement et forces de l'ordre. Reportage de notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Qui succédera à la légende Usain Bolt à l'épreuve reine du 100 mètres messieurs au JO de Tokyo? Réponse en début d'après-midi. Qui ira plus vite, plus haut, plus fort? Devise olympique qui va de pair avec les valeurs du sport, valeurs bafouées lors d'un combat de boxe. Victime d'une erreur d'arbitrage, un Français ne peut contester son élimination des Jeux. Venise, les monstres des mers n'approcheront plus de la place Saint-Marc. Recommandation de l'UNESCO pour préserver la cité lacustre. Mesure qui entre en vigueur ce dimanche.
France Inter.
La violence des opposants au confinement et au couvre-feu en Martinique la nuit dernière. Les forces de l'ordre ont essuyé des tirs à balles réelles, des barricades ont été montées, des poubelles incendiées. Les échauffourées se sont concentrées sur deux quartiers sensibles de Fort-de-France, les Hauts-du-Port et Sainte-Thérèse. Le reportage de l'envoyé spécial de France Inter en Martinique, Thibault Lefebvre.
Toute la soirée, un hélicoptère a survolé Fort-de-France. Au plus fort des tensions, la gendarmerie mobile a engagé un blindé après avoir essuyé des tirs à balles réelles. Anis Essoké, un médiateur des quartiers, a filmé en direct sur Facebook les affrontements.
Tout le monde est sous tension, là, tu vois. À partir que le couvre-feu il a été mis en place, toutes les activités sur l'île dans la période de vacances sont terminées. Et donc, il y a un sentiment de défiance qui se met en place. Tout le monde s'attendait à ça, de toute façon. Parce qu'il suffisait d'une étincelle, tous les ingrédients étaient réunis. Il n'y a personne qui ne savait pas que ça aurait pété ce soir.
Et l'étincelle est venue de ce qu'on appelle ici un vidé, un carnaval nocturne qui a été organisé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Vanessa vit dans le quartier du Haut-du-Port, le principal théâtre d'affrontement.
Le déclencheur, ça a été que les jeunes manifestaient avec du tambour et tout. La jeunesse se manifeste comme ils le sentent. C'est leur seul moyen, c'est ça. Et qu'après, on a vu les voitures de police arriver, ça a dégénéré.
Bilan provisoire, deux arrestations et de nombreux dégâts, avec notamment deux grandes surfaces pillées et un centre de vaccination complètement détruit.
Thibault Lefebvre en Martinique. Hier à Paris, 25 manifestants dont deux mineurs ont été placés en garde à vue. Ils sont entendus notamment pour violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique et détention d'engins explosifs. Parmi les 184 manifestations organisées hier, 72 antipas ont été interpellés. Le détail de cette journée de mobilisation record à retrouver sur franceinter.fr. Et alors que la fronde anti-vaccination et antipas se durcit, la situation sanitaire se dégrade, notamment dans les départements prisés des touristes. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence de l'épidémie est de 517 cas pour 100 000 habitants, contre 218 au niveau national. En Occitanie, en une semaine, ce taux d'incidence a bondi de plus de 40%. Résultat, il est désormais 8 fois supérieur au seuil d'alerte. L'ARS, l'Agence régionale de santé, appelle donc à la vigilance et au respect des gestes barrières. Marine Protet, aucun département n'est épargné.
Les Hautes-Pyrénées, le Lot, la Haute-Garonne et l'Aude ont des taux d'incidence 3 à 8 fois plus élevés que le seuil d'alerte. Mais là où la situation est la plus tendue, c'est dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Dans ces deux départements, le taux d'incidence se situe autour de 600 contaminations pour 100 000 habitants. C'est 12 fois le seuil d'alerte. Le virus se propage donc très vite et touche désormais toutes les tranches d'âge. Si la diffusion est un peu plus limitée chez les plus de 65 ans, en grande partie vaccinés, chez les 20-30 ans, en revanche, on atteint des chiffres sans précédent, avec un taux d'incidence 24 fois supérieur au seuil d'alerte, ce qui forcément a des conséquences sur le système de santé. En un mois, les hospitalisations ont été multipliées par 10 en Occitanie et ça ne devrait pas s'arranger dans les prochains jours. Selon l'Institut Pasteur, le nombre de malades en réanimation devrait quasiment doubler d'ici lundi prochain.
Et pour Frédéric Valtoux, le président de la Fédération hospitalière de France, l'heure n'est plus à la demi-mesure. Il faut que la vaccination devienne obligatoire. En Israël, pays où la population est la plus vaccinée au monde, les plus de 60 ans ont commencé à recevoir leur troisième dose de vaccin contre le Covid aujourd'hui. Leur deuxième dose doit avoir été injectée il y a au moins 5 mois. Michel Paul s'est rendu dans un centre de vaccination à Jérusalem.
Nous sommes à Misgav Ladar, le dispensaire de la caisse maladie Meuchedet à Jérusalem. Le centre de vaccination affiche complet. Des personnes âgées, souvent accompagnées, qui viennent recevoir la troisième dose du vaccin. Pas de crainte, constate Dorit, l'infirmière en chef.
Non, pas du tout. Personne n'a peur. Tous, ils veulent venir. Je trouve qu'il sait très bien que tous, ils veulent faire le vaccin, la troisième.
Lisa, 78 ans, elle, est plutôt hésitante. En tout cas, cela ne peut pas nous faire du mal, affirme-t-il.
Je crois que c'est très important. Et même si cela ne nous aide pas, c'est dangereux de ne pas le faire. Parce que personne n'est vraiment certain, vous savez.
Le médecin s'approche, la seringue à la main.
Zéro ?
Et voilà, je n'ai rien senti, dit Lisa. Il y a près d'1,5 million de plus de 60 ans en Israël. Selon un sondage, seuls 67% d'entre eux ont l'intention de se faire vacciner. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
La CGT dénonce des hausses pharaoniques des prix de l'énergie. Aujourd'hui, le tarif réglementé du gaz augmente de 5% pour les particuliers et celui de l'électricité de 0,48%. 3 100 000 foyers ont encore des contrats à tarif réglementé, contrats qui disparaîtront dans 2 ans. Une dizaine de raves étaient organisées la nuit dernière à la mémoire de Steve Maiacaniso. Le jeune homme était mort noyé à Nantes lors de la fête de la musique en 2019. En Gironde, près de Biganos, près de 1500 teufs étaient rassemblés. En Vendée, ils étaient environ 600 ou encore 750 au sud de Laval, en Mayenne. Le président des offices de tourisme, Christian Mourisard, tempère les propos de Jean-Baptiste Lemoine. Dans un entretien au journal du dimanche, le secrétaire d'État au tourisme espère qu'il y aura 50 millions de visiteurs étrangers cet été en France. C'est peut-être un peu exagéré, estime Christian Mourisard. En 2019, la France avait accueilli 90 millions de touristes venus hors de nos frontières. Une nouvelle page de l'athlétisme va s'ouvrir ce dimanche au stade de Tokyo, celle de l'après Usain Bolt, légende vivante aux 8 médailles d'or. L'épreuve mythique des Jeux, le 100 mètres messieurs, se dispute en début d'après-midi, heure de Paris. Et pour la première fois depuis 2008, le sprinteur jamaïcain ne sera pas au départ. Bonjour Jérôme Val, vous êtes en direct de Tokyo.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Alors qui peut succéder à celui qu'on a surnommé l'éclair ?
Ah bah écoutez, c'est évidemment la question que tout le monde se pose ici. Qui pour prendre le relais du Jamaïcain qui, vous l'avez rappelé, n'a laissé aucune miette à la concurrence pendant plus d'une décennie en réalisant un triplé 100, 200, 4 x 100, même si il avait été privé d'une médaille en relais parce qu'un de ses partenaires était suspendu pour dopage. Et puis, une autre question qui vient derrière. Les États-Unis vont-ils renouer avec le succès qui les fuit depuis 2004 et la victoire de Justin Gatlin? Eh bien, ça ne sera pas grâce en tout cas à celui qui était le prétendant à la succession de Usain Bolt, Trayvon Bromell, meilleur performeur mondial de l'année, l'américain, mais sorti tout à l'heure dès les demi-finales. Celui qui a réalisé le meilleur chrono de ces demi, c'est le chinois Bing Chong sous 9 secondes 83, tout comme l'américain Ronnie Baker. C'est un autre américain qu'il va falloir suivre également avec Fred Curley, qui était assez régulier depuis quelques temps et qui se présente sur cette finale avec un peu le dossard de favori. Mais il y aura d'autres sprinteurs à suivre, le sud-africain Kenny Simbine qui a couru il y a moins d'un mois en 9 secondes 84, le même temps que celui réalisé par l'étonnant italien Lamont Marcel Jacobs, qui devient au passage le nouveau recordman d'Europe. Bref, c'est une finale extrêmement ouverte, malheureusement sans Français, puisque Jimmy Vico n'a pris que le 5e temps de sa demi-finale tout à l'heure. Et donc, il ne va pas réaliser l'exploit qu'il avait fait à Rio il y a 5 ans en prenant la 7e place de la finale.
Une finale à suspense. Merci beaucoup, Jérôme Val. En boxe, les Français vont repartir de Tokyo bredouille. Et pourtant, ce matin, Mourad Aliyev n'aurait pas dû être sorti du ring. Le Français qui joue chez les plus de 91 kilos a dénoncé une erreur d'arbitrage. La version a été validée par le superviseur de l'épreuve. Bonjour Fanny Lechevestrier, vous êtes aussi à Tokyo.
Bonjour.
Alors Fanny, aussi injuste que cela puisse paraître, il n'y a pas de recours possible?
Non, il n'y a pas de recours possible, c'est en tout cas la règle en boxe. Une fois qu'une décision est annoncée, la fin d'un combat annoncé, on ne peut pas revenir en arrière, même si ce midi, attention, le CNOSF, le Comité National Olympique Sportif Français, indique que son service juridique s'est emparé du dossier pour étudier tous les recours possibles auprès du tribunal arbitral du sport. Mais cela nous a déjà donné droit, hein, avec Mourad Aliyev, à l'image sans doute de la journée à ces Jeux Olympiques de Tokyo, du jamais vu. Après avoir crié sa colère en face caméra, véritablement, le boxeur français est resté près de 3 quarts d'heure assis seul sur le ring, refusant de quitter la scène en signe de protestation et avec des organisateurs japonais qui n'osaient pas le déloger. Un geste pour dénoncer donc, selon lui, ce qu'il appelle un scandale. C'est ce qu'il a expliqué un peu plus tard au micro de France Télévisions.
Ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur, mais comme ils ont écrit sur le papier, bah, c'est trop tard, ils ne peuvent pas revenir sur la décision. Mais c'est un scandale ça. c'est n'importe quoi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est innocent, ils le condamnent. Et voilà, tout le monde sait qu'il est innocent, mais ils le condamnent quand même. Tous les gens qui ont vu le combat, ils ont su que j'ai gagné, que je me suis fait voler. Et je suis vraiment déçu.
Aliyev injustement donc disqualifié selon le clan français pour un coup de tête, un contre-tête porté à son adversaire. Les tricolores, avec l'aide du Comité national olympique sportif français, vont essayer de faire appel, mais ça n'a quasiment aucune chance d'aboutir.
Merci Fanny Lechevestrier depuis Tokyo avec les moyens techniques de David Amias. Place maintenant au palmarès des Français. Alors en fleuret, c'est la couleur de la médaille qui est en train de disputer l'équipe messieurs des tricolores face à la Russie, et les tricolores sont en train de mener. 21e breloque assurée en tout cas pour la délégation française. Le dernier titre pour le fleuret masculin remontait au JO de Sydney 2000. En natation, Florent Manaudou décroche l'argent aux 50 mètres nage libre. J'en rêvais quand j'ai repris l'entraînement il y a moins de 2 ans et demi. Je suis aux anges, a déclaré le champion marseillais. Monté donc pour la 3e fois en individuel sur un podium olympique depuis le début de sa carrière. Mais celui qui avait gagné l'or à Londres n'a rien pu faire face à l'invincible américain Dressel, lui qui totalise 5 titres olympiques lors de ses JO. Coup de toujours côté français, les volleyeurs ont arraché leur billet pour les quarts de finale face au Brésil. C'est la première fois que les tricolores accèdent à ce stade de la compétition olympique. Enfin, Simone Biles déclare forfait pour la finale de la gymnastique au sol pour demain. La star américaine avait déjà renoncé à l'épreuve par équipe et à celle des barres asymétriques. Dans le reste de l'actualité, à l'étranger, en Birmanie, cela fait 6 mois exactement que la junte militaire a pris le pouvoir et que l'opposante Aung San Suu Kyi est emprisonnée. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est engagé à organiser de nouvelles élections d'ici 2 ans, alors que le pays s'enfonce dans la crise. Aux États-Unis, des millions de locataires sont désormais menacés d'être jetés à la rue. Le moratoire sur l'interdiction des expulsions a pris fin. Il avait été mis en place en raison de la pandémie. Les croisiéristes sont priés d'aller s'amuser au large de la lagune vénitienne. Les navires de plus de 25 000 tonnes n'ont plus le droit depuis aujourd'hui d'accoster à proximité de la place Saint-Marc. Direction le port industriel de la cité des Doges. Les géants des mers abîmaient les fondations de la cité lacustre. Mais cette interdiction ne résout pas tous les problèmes qui menacent Venise. La correspondance d'Olivier Tosseri.
C'est un jour historique, se félicite le ministre italien de la Culture, celui, après des années d'attente, de l'entrée en vigueur d'une décision voulue par l'UNESCO et les personnes choquées par ces immenses bateaux passant dans le plus beau et le plus fragile endroit du monde. Les paquebots de plus de 180 mètres de long et de plus de 35 mètres de haut sont bannis de la cité des Doges. Une bonne nouvelle pour les manifestants qui dénonçaient la pollution et le danger que représentent ces monstres des mers. Parmi eux, l'activiste Marco Gasparinetti, qui s'est battu pendant des années pour obtenir cette interdiction. Désormais conseiller municipal de Venise, son enthousiasme est pourtant modéré.
Ça pourrait être juste une manière de cacher la poussière sous le tapis. Tous les autres problèmes dénoncés par l'UNESCO demeurent, à commencer par le dépeuplement de la ville et la disparition des métiers artisanaux. Évidemment, la partie émergée de l'iceberg étaient les navires de croisière, et en retirant cet obstacle, en mettant la poussière sous le tapis, on pense probablement que tous les autres problèmes passeront au second plan.
Venise évite en effet d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril, mais son avenir reste toujours en danger. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et puis on reste sur le littoral, mis à mal cette fois par les filets de pêche qui tapissent les fonds marins. Ces filets abandonnés représentent 10% des déchets que l'on retrouve en mer. Alors à Marseille, les bénévoles de l'association Palana Environnement plongent pour nettoyer la Méditerranée. Romane Porson les a accompagnés.
Direction ce matin, la calanque de Lévrine. Une dizaine de bénévoles partent à la recherche donc de filets, des filets fantômes, comme nous l'explique Pablo Liguer, le président de l'association.
Donc les filets fantômes, c'est des filets qui sont perdus en mer à cause des tempêtes ou d'accidents de la part des pêcheurs. Et c'est des filets qui peuvent attraper des espèces sensibles. Bah, l'autre jour, on a récupéré un mérou coincé dans un filet. Le mérou, c'est une espèce emblématique de Méditerranée qui avait presque disparu il y a quelques années.
Les bénévoles plongent donc à 30, 40 mètres et à l'aide de parachutes font remonter les filets. Romuald Arnaud dirige l'opération.
On a fait des systèmes en utilisant d'anciens filets qu'on a modifiés. Ça fait une poche. On va mettre ces filets à l'intérieur. Ils m'ont sorti un parachute. On va le chercher.
Et justement, Marion, l'une des bénévoles, remonte un filet à l'instant dans lequel on retrouve énormément de corail.
Là, il y a beaucoup de dentelles de Neptune.
Une noiture. On va la relâcher. Puis alors si on a du filet qui est tout récent, bah en fait ça ressemble vraiment à du fil de pêche. Quand il est plus vieux, bah il va être tout concrétionné, il y a plein d'organismes qui se fixent dessus et donc du coup il devient souvent plus lourd.
La plupart finiront donc en déchetterie et une partie sera recyclée, notamment pour faire des bijoux.
Le reportage de Romane Porson de France Bleu Provence. Et on jette un coup d'œil sur le ciel.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et l'on retrouve Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Cet après-midi, le soleil va briller généreusement autour du golfe du Lion, de la basse et moyenne vallée du Rhône à la région PACA, sans oublier l'île de Beauté. La tramontane va souffler jusqu'à 60 km par heure dans son domaine. Les côtes varoises et les caps corses seront balayées par un vent d'ouest proche de 80 km par heure. Et puis partout ailleurs, il faudra une nouvelle fois composer avec un ciel de traîne, alternant les courtes éclaircies et les cumulus porteurs d'averses. Des averses prenant un caractère orageux au nord de la Seine, mais aussi entre la région Grand Est et les Deux-Savoie, en passant par la Franche Comté. Les températures encore bien timides pour la saison évolueront généralement entre 19 et 23 degrés. Ça sera un peu plus chaud autour de la Grande Bleue. Prévoyez 27 à Nîmes et Toulon, 28 à Marseille, 30 à Bastia et 31 à Nice. Demain lundi, vous allez retrouver exactement le même type de temps dans une atmosphère toujours trop fraîche pour la saison. Et cette situation va perdurer au moins jusqu'au week-end prochain.